France Culture.
Et le journal, c'est avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous.
Nous exigeons désormais leur libération immédiate.
Déclaration ce matin du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, après qu'on a appris hier soir l'inculpation d'espionnage pour le compte d'Israël de Cécile Kohler et Jacques Paris détenus en Iran. On écoutera la consternation, surtout l'effroi de Noémie Kohler qui craint désormais pour la vie de sa sœur et de son compagnon. Et puis on tâchera d'expliciter le contexte particulier dans lequel interviennent ces nouvelles accusations.
Le Rassemblement National à nouveau mis en cause pour des irrégularités au Parlement européen.
Défaut d'appel d'offres, surfacturation, le parti d'extrême droite est suspecté avec ses alliés à Bruxelles d'avoir indûment dépensé plus de 4 millions d'euros. À suivre également une grève des contrôleurs aériens qui perturbe le début de la saison estivale.
Enfin, le Haut Conseil pour le climat appelle à un sursaut collectif.
L'organisme regrette des reculs de nature, on le verra, à remettre en cause la lisibilité de la politique de la France en faveur de l'environnement. Voilà plus de 3 années déjà qu'ils survivent dans les geôles du régime des Mollahs, dans des conditions de détention qui relèvent rien de moins que de la torture. Cécile Kohler, 40 ans, professeur de lettres modernes, et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, ont été arrêtés arbitrairement le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran, soupçonné d'espionnage, mais sans que jamais Téhéran ne révèle pour quel pays précisément. Or, hier soir, la République islamique les a inculpés d'espionnage pour le compte du Mossad, le service de renseignement israélien, et pas seulement, puisque les deux ressortissants français sont également visés par 2 autres chefs d'inculpation, chacun passible de la peine de mort, corruption et complot pour renverser le régime. Un juge leur aurait formellement signifié donc cette accusation mardi. Je vous propose d'écouter la sœur de Cécile Kohler, Noémie, jointe au téléphone ce matin par Valérie Crovin.
Ce sont des motifs qui ont été communiqués à Jacques et Cécile par un juge. Eux-mêmes l'ont dit ensuite au chargé d'affaires lors de la visite consulaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont vu un juge. On ne sait pas quel juge, on n'a pas son nom. Donc tout est très très flou. Depuis des mois, on leur annonce un verdict extrêmement sévère à venir dans les jours qui viennent et ce verdict n'arrive jamais. Maintenant, on leur annonce plusieurs chefs d'inculpation, chacun indépendamment passible de la peine de mort. Donc en fait, on les met vraiment entre deux périls de mort. Donc que ce soit un chef d'inculpation officiel ou que ce ne soit qu'une menace pour Cécile et Jacques, en tout cas, voilà, ça les laisse dans cet état de terreur, de torture psychologique. Nous, ça, en tant que famille, ça nous terrifie. C'est vraiment inhumain.
La sœur de Cécile Kohler, donc Noémie, jointe au téléphone par Valérie Crovin. Alors ces accusations visant les deux ressortissants français s'inscrivent évidemment dans un contexte particulier après la guerre entre l'Iran et Israël et en plein débat sur le nucléaire. Omar Waman, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pendant longtemps, les autorités françaises sont apparues plutôt conciliantes avec le régime iranien en cherchant à tenir un rôle de médiateur. Sauf que depuis la guerre, les relations entre Paris et Téhéran n'ont jamais été aussi détériorées.
Oui, elles sont au plus bas. La France, qui réclame le retour des otages français depuis des années, n'a pas hésité, vous l'avez dit Thomas, à parler de conditions de détention indignes qui relèvent de la torture pour certains. Mais le tournant, c'est effectivement cette guerre éclair entre Israël et l'Iran. Le mois dernier, 12 jours de bombardement, une attaque surprise lancée par l'État hébreu que la France n'a jamais condamné, ce qui a provoqué la colère de Téhéran, ce que confirme Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran.
Leur perception est qu'on a choisi notre camp. Et comme ils se considèrent en situation de guerre, je pense que de leur point de vue, ils vont pas faire de cadeau à la France. Donc une attaque est quand même contraire au droit international. Il y a eu des déclarations, je crois, du président Macron qui disait que l'attaque israélienne, elle est dans le bon sens. Vous imaginez, dans un tel contexte, notamment chez les radicaux, quels peuvent être l'impact de ces déclarations?
Des déclarations qui ont aggravé un peu plus les relations entre Paris et Téhéran. Autre contentieux, la France reproche à l'Iran ses livraisons de drones Shahed à l'armée russe qui servent à bombarder les villes ukrainiennes. Et puis, il y a évidemment la question du programme nucléaire iranien, un enjeu majeur pour Paris qui a adopté une ligne dure, la même que celle des États-Unis de Donald Trump.
Et puis au-delà, ces nouvelles accusations témoignent aussi plus largement d'une intensification de la répression aujourd'hui menées par les autorités de Téhéran afin d'écraser toute forme de dissidence, de rétablir leur contrôle. Ces derniers jours, les arrestations se sont multipliées dans le pays et l'accusation est toujours d'ailleurs la même, collaboration avec le régime sioniste, comprenez Israël, selon le jargon officiel de la République islamique.
Oui, les médias iraniens ont annoncé en début de semaine une nouvelle vague d'arrestations de ressortissants étrangers et notamment européens, et ce, dans différentes provinces du pays, parfois même aux confins de l'Iran, près de la frontière avec l'Irak. Tous sont accusés d'avoir espionné des zones sensibles ou bien d'avoir collecté des informations au profit d'Israël. Alors à ce stade, Téhéran n'a pas fourni l'identité des personnes qu'elle dit avoir arrêtées, des arrestations qui sont le signe d'un durcissement du régime et du retour d'une diplomatie des otages pour détourner les sanctions et peser sur les futures négociations.
Merci Omar Waman. La défense civile de Gaza fait état ce matin de 25 nouveaux morts dans des frappes israéliennes dont la moitié ont été tués par un bombardement sur une école abritant des déplacés. Depuis ce matin, l'Autriche est devenue le premier pays d'Europe à suspendre le regroupement familial, la mesure voulue par le gouvernement. Alliance des conservateurs, des sociaux-démocrates et des libéraux est entrée en vigueur pour au moins 6 mois. Concrètement, durant toute cette période, les demandes déposées ne seront pas traitées, sauf rares exceptions, de quoi laisser de nombreux réfugiés dans l'angoisse et l'incertitude. L'affaire des assistants parlementaires fictifs du Rassemblement National est à peine jugée que déjà le parti d'extrême droite et ses alliés se retrouvent au cœur d'un nouveau scandale de détournement d'argent public au détriment toujours du Parlement européen. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Selon une enquête du journal Le Monde, le groupe Identité et Démocratie, dont faisait partie le RN, aurait utilisé illégalement plus de 4 millions d'euros de crédits de fonctionnement.
Oui, 4 300 000 euros précisément. Cela correspond à des défauts d'appels d'offres, des surfacturations et des dons à des associations entre 2019 et 2024. Selon ce rapport, la majeure partie de cette somme a bénéficié à deux sociétés liées à des proches de Marine Le Pen, à savoir son ancien conseiller Frédéric Chatillon et son épouse Sigilde Blanc. L'agence de communication et politique a ainsi perçu 1 700 000 euros après un appel d'offres purement formel et entaché de graves problèmes de conformité. Les inspecteurs bruxellois estiment donc que ces dépenses sont irrégulières. Même chose pour l'entreprise Unanime qui a empoché plus de 1 400 000 euros pour des travaux d'impression sous-traités à moindre coût avec une marge évaluée à 260 000 euros. Cela rappelle l'affaire des kits de campagne dans laquelle le même Frédéric Chatillon notamment et des membres de l'ex-Front National avaient été condamnés pour escroquerie et abus de biens sociaux. Troisième point, le RN et ses alliés de l'ex-groupe du Parlement européen Identité et Démocratie se voient reprocher des dons à des associations n'ayant aucun lien avec leurs activités politiques à Bruxelles, des associations pour la stérilisation des chats errants, une amicale de sapeurs-pompiers ou encore pour la restauration d'une paroisse. Cela représente plus de 700 000 euros sur 5 ans, distribués à des structures souvent liées à des proches d'eurodéputés d'extrême droite ou situés dans leur région d'élection. Interrogée ce matin sur RTL, Marine Le Pen affirme ne pas en avoir eu connaissance. Elle évoque de possibles désaccords administratifs avec le Parlement européen, tout en qualifiant l'institution, je cite, d'organe politique qui mène à l'égard de son opposition une guerre de tranchées et lui cherche des noises matin, midi et soir, en toutes circonstances.
Merci Antoine Marette. Une amende record, le géant chinois de la mode éphémère Shein s'est vu infliger ce matin une amende de 40 millions d'euros. L'enquête de la répression des fraudes révèle notamment la mise en œuvre de pratiques commerciales trompeuses à l'égard des consommateurs sur la réalité des réductions de prix accordées. Comme un avant-goût des tiraillements à venir sur la construction du prochain budget, dans son rapport annuel publié hier consacré aux finances publiques, la Cour des comptes dresse un constat alarmant de la situation avec un déficit public le plus élevé de la zone euro, la haute durée. Prédiction estime à plus de 100 milliards d'euros les efforts nécessaires, économies de dépenses ou recettes supplémentaires. Rappelons que François Bayrou a lui promis de dévoiler ses objectifs à la mi-juillet, avant un projet de budget dont l'examen à l'automne s'annonce d'ores et déjà périlleux pour la survie de son gouvernement. Un quart des vols annulés aujourd'hui au départ de Paris, un avion sur deux depuis Nice. Une grève des contrôleurs aériens a débuté ce matin qui vient perturber le début des vacances d'été de dizaines de milliers de voyageurs. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Les syndicats dénoncent des situations de sous-effectifs, mais pas seulement. Ils déplorent aussi la mise en place bientôt de pointeuses numériques qui permettront de savoir à quelle heure les agents arrivent à leur poste et de compter le nombre d'heures de travail qu'ils effectuent. Or, quand le ministre défend une simple mesure de sécurité, les grévistes, eux, Hakim, dénoncent du flicage à part entière.
Oui, cette réforme a été décidée par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et le ministère des Transports, après un incident grave à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac fin 2022, où deux avions ont failli entrer en collision à cause d'un manque de contrôleurs aériens dans la tour. En effet, l'enquête a révélé que ce jour-là, sur les 6 contrôleurs prévus au tableau de service, seuls 3 étaient réellement présents. Des absences liées à des jours de repos que prennent parfois, au dernier moment, les contrôleurs, quand le trafic est calme. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des aiguilleurs la clairance. Ce que conteste l'UNSA, ICNA, le deuxième syndicat des aiguilleurs du ciel, parle lui d'un manque d'effectifs chronique, d'un management toxique, ainsi que d'outils obsolètes. De son côté, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a qualifié ce mouvement à la veille des vacances, lui, d'injustifié et n'entend pas céder face à des syndicats minoritaires. Notez, Thomas, que ce mouvement social a également des répercussions dans toute l'Europe occidentale, puisque les contrôleurs des centres de Marseille, Brest et Reims gèrent aussi les vols qui traversent la France en sécurité. Enfin, face pour l'instant à des négociations qui pâtissent toujours, eh bien, pour l'instant, la grève va continuer et surtout, le domaine de trafic sera encore plus perturbé avec au moins 40% de vols annulés, rien qu'à Paris.
Merci Hakim Kasmi. Il revendiquait la désobéissance civile comme moyen d'action. En vain, ce matin, la Cour européenne des droits de l'homme a débouté 11 militants écologistes qui avaient formé un recours après leur condamnation pénale pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans plusieurs mairies de France. C'était en 2019. Les juges estiment que les peines d'amende prononcées allant de 200 à 500 euros ne sont pas disproportionnées. Toujours est-il que cette affaire à travers laquelle ces militants entendaient donc dénoncer le mauvais travail de la France et de son président en matière de protection du climat trouve forcément une résonance particulière en pleine canicule, soit l'expression la plus éprouvante de cette impérieuse nécessité de respecter nos objectifs climatiques. Or, il se trouve que ce matin même, le Haut Conseil pour le climat a justement déploré des reculs environnementaux inquiétants et des retards importants du cadre de l'action publique. Véronique Robert-Roth, bonjour.
Bonjour.
L'organisme indépendant met donc la pression sur le gouvernement tout en appelant à un sursaut collectif.
Oui, il pointe aussi un manque de pilotage de l'action climatique en France. Les politiques publiques sont nettement à la traîne d'un climat qui change vite, dont les impacts s'amplifient. On l'a vécu, on l'a bien vécu ces derniers jours. Le Haut Conseil pour le climat appelle vivement donc à relancer l'action climatique en France au ralenti, eh bien à cause d'un contexte politique instable et d'un contexte budgétaire. L'heure est aux économies, contexte défavorable à l'action. Ce qui a pour effet d'empêcher les particuliers, les acteurs économiques et les territoires de s'engager dans cette transition, sans compter les reculs sur MaPrimeRénov par exemple ou sur les zones à faible émission qui viennent remettre en cause la lisibilité, la crédibilité de la politique climatique. C'est ce qu'explique donc le Haut Conseil pour le climat. L'impulsion n'est pas là. La France n'a pourtant pas de temps à perdre dans la décarbonation de son économie qui a connu un ralentissement inquiétant en 2024, dit aussi le HCC. L'an dernier, les émissions de gaz à effet de serre ont seulement baissé de 1,8% contre presque 7% en 2023. Et de surcroît, la réduction de 2024 tient surtout à des facteurs conjoncturels, comme un hiver doux qui a limité l'usage du chauffage. Un fléchissement incompatible, en tout cas, avec l'objectif de neutralité carbone en 2050, alerte le Haut Conseil pour le climat, et l'objectif aussi intermédiaire de 2030, qui prévoit de réduire nos émissions de 55% par rapport à 1990. Pour cela, il faudrait une baisse 9 fois plus forte de nos émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment, 4 fois plus forte dans les transports et 3 fois plus importante dans l'industrie et l'agriculture. Bref, un sérieux sursaut collectif.
Merci Véronique Robert-Roth. Emmanuel Macron a prévu de s'afficher cet après-midi dans les caves rafraîchies de Roquefort sur Soulzon, fief du célèbre fromage de brebis qui célèbre cette année les 100 ans de son appellation d'origine, un emblème gastronomique et notamment à l'international où il réalise un quart de ses ventes, en particulier aux États-Unis, malgré un contexte tendu. En l'occurrence, cette visite du chef de l'État intervient au moment où le commissaire européen au commerce tente lui de conclure un accord commercial avec Washington avant la date butoir du 9 juillet. fixé par Donald Trump. Toujours aux États-Unis, les républicains au Congrès ont finalement réussi dans la nuit à surmonter les objections d'élus réfractaires dans leur propre camp pour se rapprocher d'une adoption définitive du vaste projet de loi budgétaire porté par Donald Trump, et ce, en dépit donc du risque attendu d'explosion du déficit public. Enfin, un nouveau Premier ministre intérimaire a prêté serment ce matin en Thaïlande, soit le troisième en seulement 3 jours. Une crise politique d'autant plus troublante que la chef du gouvernement, suspendue cette semaine par la justice au cœur d'une procédure qui risque de conduire à sa destitution, figure malgré tout dans le nouvel exécutif remanié en tant que ministre de la Culture. De quoi nourrir un peu plus donc la réputation d'instabilité du royaume. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par le retour des nuages du sud-ouest au nord-est. En revanche, le soleil brillera généreusement de la Bretagne jusqu'à l'île de France et sur un large quart sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 19 et 38 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Antoine Bouchet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.